Moi, je veux bien me lancer.
Oui, Philippe.
Bonjour. J'ai très, très bien d'abord apprécié tout l'ensemble. Simplement, ma question, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme source antérieure à Bernard?
Alors, c'est le monde carolingien, c'est-à-dire c'est Alcuin, Charlemagne. On peut difficilement aller chercher des sources entre le 4e et le 8e, sauf en Cappadoce et à Byzance. Mais en Occident, on n'existe plus. Et donc, on a des documents sur la nature, là, une nature, disons, une interprétation très biblique des choses dans les tout premiers siècles. Ensuite, avec Alcuin et Charlemagne, on a la théorie des harmonies générales qui arrive, celle qui a été reprise donc d'une manière magnifique par Hildegard von Bingen. Et en Orient, on a les pères cappadociens qui, eux, disons, ce sont les lointains pères de François d'Assise. Ils ont un peu cette mentalité-là. Alors, j'en ai pas du tout parlé, là, des cappadociens. Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, et Grégoire de Nice. Donc, oui, c'est très constant dans la tradition de l'Église.
C'est ça. Mais si on revient
Et
au père de l'Église, ce sont ces pères-là.
oui,
D'accord. Très bien.
voilà. On
Merci.
a par exemple des ouvrages qu'ils ont écrits qui s'appellent De la création ou bien Des 8 jours. Et donc, c'est les jours de la création. Ils méditent sur la création ou encore sur la louange.
Merci.
Voilà, y a-t-il d'autres?
En prolongation de la question de Philippe, vous avez au début parlé en disant toute la tradition de l'Église d'Origène jusqu'à la Renaissance. Justement, sur Origène, lui, en plus, il fait partie des pères occidentaux latins.
Oui.
Hein. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, il était le premier à traiter ces sujets. D'après
Oui.
ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'il a fait, quel était le concept ou les concepts qu'il a introduits?
Alors, c'est un de ceux qui commentent l'écriture. Donc, en fait, beaucoup de choses sont dans Origène parce que tout simplement, c'est un des premiers à avoir écrit. Voilà, donc, et il a commenté le livre de la Genèse. Et donc, c'est par là qu'on a déjà une très belle interprétation qui est très loin de celle que nous reproche Lynn White. Donc, d'emblée, on a une espèce de sagesse. Alors, il reste très grec, Origène. Hein. C'est-à-dire, il est très dans la mentalité de la philosophie grecque, voire platonicienne. C'est-à-dire, quand même, pour lui, en gros, hein, c'est l'esprit qui compte. Et l'homme est celui qui chante la louange, mais la matière n'est pas bonne. Voilà, ça, il va falloir que l'Église se convertisse là-dessus.
J'ai une question. Dans le judaïsme, la conception de la création est-elle très différente?
Alors oui, le judaïsme est resté, vous savez, je mets une image avec un guetteur là. Guetteur, pontife, eh bien, les Juifs sont restés ils sont les artisans. À eux a été confié, ce qui n'est pas faux, hein, l'artisanat du monde. Et c'est la raison pour laquelle ils sont si industrieux, si intelligents et si entrepreneurs, si j'ose dire, entreprenants. Voilà, il y a une tradition juive de travailler le cosmos. Regardez ce qui se passe en Israël. Hein. Quand ils sont arrivés en Israël, c'était un désert. Maintenant, c'est un jardin.
Oui.
Ils sont quand même dans la contemplation.
Non, non, très peu. Très, très peu. Alors, ils connaissent quand même, au 4e siècle, par exemple, on a, contrairement à ce que beaucoup pensent, ils pensent que les Juifs sont entièrement iconoclastes. Alors, ils ne le sont pas tout à fait. Au 4e, on a encore des mosaïques et des fresques où ils mettent en évidence le zodiaque. Et donc, en effet, comme les médiévaux, ils ont le souci de rentrer dans l'intelligence du créateur, de comprendre le mécanisme des choses. Alors ça, on peut appeler ça de la contemplation, ou de la compréhension.
Et donc, pour nous chrétiens, le fait de l'incarnation, ça approfondit, ça change.
Parce que on est obligé de tourner le dos au néoplatonisme qui n'aime pas la matière ni la chair. Or, Dieu s'est fait homme. Et donc là, ça change tout, quoi.
Merci.
J'aurais, si c'est possible, une question sur Hildegarde de Bingen.
Oui,
allez-y. Un peu rapidement, moi, c'est quelqu'un qui me paraît tout à fait étonnant. Pourquoi on a mis tant de temps à la reconnaître et qu'est-ce que...
Ouais. C'est très étonnant. Oui, ouais. C'est très étonnant, en effet. Hein. Elle a été oubliée. Elle a été oubliée, notamment par l'Église après la Renaissance, parce que, je vous l'ai dit une fois par allusion, l'Église s'est laissée piéger par les querelles des sciences naissantes qu'on appelle aujourd'hui de l'astrophysique au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et elle s'est laissée piéger par ça en essayant de répondre à la question de la cohérence des 8 jours de la création avec ce que la science de l'époque nous apprenait sur la cosmologie. Et elle s'est enfermée dans ce débat, oubliant sa vraie tradition, qui n'est pas la tradition du comment les choses se sont faites, mais quel est le sens des choses qui se font. Et donc, on a retrouvé Hildegard von Bingen grâce aux grands travaux d'érudition des éditions Sources chrétiennes. Donc, c'est très récent, hein, c'est du XXe siècle, parce qu'on a retrouvé les manuscrits, qu'on les a traduits. Vous savez qu'on est encore en train de découvrir des manuscrits du XIIe siècle. Il y a un père de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire qui vient de traduire, il y a une quinzaine d'années, un texte tout à fait remarquable d'un abbé qui s'appelle Abbon, un abbé du Xe siècle qu'on avait complètement oublié. Alors donc voilà, c'est toutes ces raisons-là. Hein. Premièrement, la raison, on s'est laissé séduire par les questions de la modernité, les questions mécanistes du monde, alors que ce n'était pas nos vraies questions. Et elles nous ont égarés d'ailleurs, parce que du coup on a mal répondu, puisque ce n'est pas notre domaine, vous voyez. On s'est précipité sur des réponses d'opposition à Galilée, etc. Alors, on n'avait même pas à y aller, ce n'était pas nos questions. Et on s'est laissé tenter par ces questions, évidemment, fascinantes et intéressantes, mais sauf qu'on n'a rien à dire sur le comment ça s'est fait. Par contre, on a beaucoup de choses à dire sur le comment honorer la nature, comment la respecter, comment l'estimer. Et ben là, on l'a oublié. Et donc, c'est très récemment, hein, 20e siècle, donc les recherches en bibliothèque, en fait, plus les thèses qui ont été faites sur Saint Bonaventure. Et par Saint Bonaventure, qui était franciscain, on a donc tenté de retrouver ce qui précédait Saint Bonaventure. Et on a retrouvé Hildegarde. C'est fascinant, cette histoire.
Elle ne devait pas être la seule.
Non, il y a une sœur en Alsace qui a écrit un Hortus Closus, donc le livre Le Jardin Clos, qui est une espèce de compendium de tout ce qu'elle connaissait de la nature, y compris des recettes de choux, des choses assez étonnantes. Avec cette idée-là, hein, évidemment, c'est une bénédictine du XIIe siècle. Vous savez, le Mont Saint-Odile.
Oui.
Et ben voilà. C'est une femme qui était abbesse du Mont Saint-Odile. Le grand siècle des femmes, hein, le XIIe siècle.
Ah.
Pour les abbayes.
Bernard, si je comprends bien, il faut laisser le comment à la science.
Oui, c'est-à-dire le mécanisme, la physique, si vous voulez, l'astrophysique. Et l'astrophysique, il faut laisser les sciences se quereller toutes seules entre elles, hein. On n'a pas besoin de s'en mêler.
D'accord.
Voilà, c'est...
Vous connaissez un peu Saint-Bernard et...
Ouais.
Et un peu Saint-François, j'avais jamais repéré cette différence énorme par rapport à la conception de la nature.
Ah ouais.
Est-ce que François, enfin, connaissait évidemment Saint-Bernard, mais est-ce qu'il avait
Attendez, on n'entend plus rien. Allez-y, reprenez.
Est-ce qu'il avait vraiment la sensation d'être en opposition sur ce terrain-là? Avec
Saint-Bernard. Non, en fait, il le connaissait évidemment de tradition, parce que Saint Bernard a beaucoup marqué son époque, y compris sur les croisades, vous savez, il a influencé les papes, donc il le connaissait évidemment. Mais en fait, il innove tellement, et il est tellement pacifié, que c'est un homme qui crée quelque chose de nouveau sans s'opposer. C'est certainement une des raisons pour laquelle le pape l'a choisi, hein. C'est-à-dire il crée quelque chose de franchement très, très innovant pour son époque, et il ne querelle pas du tout ses prédécesseurs. Voilà. Alors, il y a un autre personnage dont je n'ai pas parlé, parce qu'on ne peut pas tout dire hein, en quelques instants, qui a lui aussi un autre rapport à la nature, c'est Saint Bruno, qui va fonder les Chartreux, qui lui est entièrement dans un rapport de jardinier et de contemplation. C'est très intéressant aussi. Bon, ben voilà, pour Saint Bernard et Saint François, c'est pas mal. Hein. Il y a quand même énormément de choses à comprendre de cette époque. Et alors après, on passe au groupe Hildegard von Bingen et Isaac. Alors, à nouveau, beaucoup de découvertes, j'imagine, pour la plupart d'entre vous.
Oui.
Y compris, d'ailleurs, l'iconographie que j'ai retrouvée en Arménie, vous savez, sur ces étranges, ces deux tympans tout à fait fabuleux, hein, que j'ai trouvé en Arménie et que je mets pour illustrer Isaac de l'Étoile. Isaac de l'Étoile, c'est quelqu'un qui n'est pas connu du tout, mais qui est remarquable. Alors,
les œuvres sont accessibles, les œuvres d'Isaac.
Oui, en source chrétienne, on a 54 sermons. Hildegard von Bingen, évidemment, ça ne manque pas.
Hein. Oui.
Et Saint Bonaventure également. Vous savez que le pape actuel, le pape Benoît XVI, a écrit sa thèse de doctorat sur Saint Bonaventure. Oui. Ce qui, à l'époque, était très inédit parce que tout le monde pensait par Saint Thomas d'Aquin. Et lui a eu l'idée d'aller voir l'autre de la même époque, qui était Saint Bonaventure. Alors, la grande différence entre Saint Thomas et Saint Bonaventure, c'est que Saint Bonaventure inclut le sensible, mais le sensible, vous savez, le sensible de la sensibilité, quoi, de l'émotion, de la joie, alors que Saint Thomas n'utilise le sensible que comme palpeur mécanique, c'est-à-dire c'est le premier mode de connaissance. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas d'esthétique chez Saint Thomas, la théorie du beau, alors qu'il y en a une chez Bonaventure. Bon, ça, c'est la thèse de Ratzinger quand il avait 30 ans. C'est, c'est fabuleux, mais ça, c'était pas hier. Et depuis, Bonaventure est revenu très fort dans les universités, hein, y compris à l'Institut catholique de Paris, avec Laure Solignac, qui est une spécialiste de Bonaventure. Alors, vous avez vu, Bonaventure, c'est donc son idée, c'est que il faut. C'est pour ça que j'ai mis sous l'appellation jouissance du monde. C'est-à-dire, il réhabilite, comme Saint Thomas d'ailleurs, la jouissance comme telle. C'est-à-dire le plaisir quasi charnel, le plaisir des choses. C'est étonnant, hein, l'image qu'on a, vous voyez, dans nos têtes, l'image qu'on a du Moyen-Âge. Et on a là deux grands maîtres, qui sont les grands maîtres du XIIIe siècle, qui nous disent l'un comme l'autre qu'il faut apprendre la jouissance. C'est quand même extraordinaire. Vous le saviez, ça ?
Non.
Généralement, les prêtres ne le savent pas. Donc... Catherine, oui.
Surtout pour un franciscain qui est post-âme pauvreté, donc la jouissance, un peu difficile.
Non, parce que c'est la jouissance de la simplicité.
Oui.
C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme les philosophies de la zénitude, vous savez, qui sont tant à la mode en France, c'est-à-dire profiter des moindres choses. Alors évidemment, pour Saint François, Saint Bonaventure, bah, c'est le souffle du vent au petit matin, c'est une pluie d'été, et la moindre chose emplit l'être de jouissance et de reconnaissance. C'est fabuleux.
C'est vrai.
Un morceau de pain.
Comment ?
Un morceau de pain.
Oui, c'est ça. Et donc, pas Bonaventure, mais François et tout ça, c'est des gens qui vivent dans la frugalité. Ils se contentent de peu, ils se contentent. Ah, c'est fabuleux hein, comme pensée. Et alors, Bonaventure ira même plus loin parce qu'il dit qu'il faut user droitement des choses sensibles. C'est une très belle expression, un très bel adage. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai mis deux photos, vous savez, un petit peu gag, où on voit Ratzinger qui boit une bière. Oui. Il use droitement des choses sensibles.
Et ouais. On a vu quelle est votre référence, en fait.
Oui, voilà, c'est en cette matière, oui, oui. Alors, Isaac de l'Étoile, bon, vous avez compris. Alors, c'est pour ça que Isaac de l'Étoile, je fais une étude un petit peu plus précise, parce que c'est vraiment un cistercien intellectuel, ce qui est rare. Et son sermon, il a probablement prononcé de vive voix, mais après, il l'a réécrit, bien sûr. Parce que, comme vous l'avez vu, il est hyper construit. Et avec un emboîtement, 1 et 2 trouvent leur écho dans 3 et 4. C'est-à-dire, 1 et 2, c'est le mutisme. C'est la pensée en Dieu et la pensée de l'intelligence quand elle médite. Donc, c'est ce qu'il appelle un livre nocturne. Et pour répondre à ce côté nocturne, ben, il y a le côté palpable de la lecture des évangiles, qui, elle, est palpable, et de la liturgie. Et au milieu, comme au cœur, et en fait, pour lui, c'est ça l'essentiel, il est cistercien, il y a la nature doublée de l'enseignement. Alors ça, c'est fabuleux. Hein. Il y a un équilibre entre les deux extraordinaire. Bon, vous aviez bien repéré tout ça.
Une question
oui.
Concernant donc, la création continuée. Ça, c'est un point qui me paraît vraiment extrêmement intéressant et qui différencie justement par rapport à la science, par rapport à l'approche scientifique. Vous l'avez signalé. Donc, il y a Saint Bonaventure et Saint Thomas donc, qui sont sur cette idée.
Oui.
Mais qui a été, est-ce que ça a existé depuis, je dirais, l'Antiquité
chrétienne,
le début du christianisme, la notion, qui est-ce qu'il a inventé, enfin, inventé ou mis en avant, est-ce que c'est au niveau de, justement, de la scolastique ou ça existait déjà avant?
C'est difficile à répondre. Je pense qu'il y a des choses avant, mais là, je ne connais pas assez. Il y a une thèse actuelle qui vient d'être écrite sur la création continuée. Il y en a deux qui viennent d'être écrites. Donc oui, il y a des auteurs dans l'Antiquité chrétienne. Par exemple, vous avez la théorie du logos spermaticos, c'est-à-dire les semences du verbe, qui travaille le monde et qui continue à travailler le monde comme verbe créateur. Ça, c'est une théorie qui remonte à très loin, hein. C'est-à-dire 3e siècle. Donc, c'est au Moyen-Âge où on l'a mis en théorie. C'est, d'ailleurs, on le doit, le mot, hein, le mot même, création continuée, on le doit à saint Thomas d'Aquin. Bon, ben voilà, on peut passer, si vous voulez, au troisième document. Alors, troisième document est assez, et je dirais peut-être plus connu. C'est ce que j'appelle donc la liturgie cosmique au sens premier du terme, c'est-à-dire le cosmos comme liturge, qui chante la louange, avec d'abord cette méditation sur le premier meurtre. Alors, il y a une allusion à ça dans la Laudato aussi. Voilà, c'est d'où les titres que j'ai mis. Hein, les deux titres que j'ai mis à cette partie sont des allusions qui sont faites dans la Laudato aussi. Notamment, il cite Romains chapitre 8. Donc, vous savez, le premier meurtre, vous avez des mots là dans le livre de la Genèse, hein, Abel et Caïn. Vous avez des mots qui sont très étonnants. Et sur lequel évidemment les pères de l'Église n'ont pas manqué de méditer, puisque Dieu entend la terre gémir. Et pourquoi la terre gémit-elle ? Parce qu'elle a bu le sang du meurtre. Et c'est le sang du meurtre qui a bu, la terre qui a bu le sang du meurtre, qui va alors protester auprès de Dieu, comme si elle avait été profanée par le meurtre. C'est un très grand texte, hein, le livre de la Genèse, vous pouvez le relire, le meurtre d'Abel et Caïn. Et après, ça ne va pas arrêter de monter jusqu'au déluge. Et si vous voulez, le déluge, chapitre 9 et 10, c'est une espèce de saturation de crasse, de mal, et la terre n'en peut plus. Elle n'en peut plus de supporter le mal et elle va vomir l'homme. Et comme elle ne peut pas le vomir, ben elle va le noyer. Vous voyez, les récits mythiques de la Bible, hein, sont, comme tous les récits poétiques, sont très très puissants. Hein. C'est-à-dire, il ne faut jamais s'arrêter à l'image. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est quoi ? C'est l'idée selon laquelle le comportement de l'homme, le comportement éthique, nuit ou au contraire bonifie la nature. Et donc, en effet, les choses sont entièrement liées. Ce qu'on a cru être des contes de fées, voire même de la magie païenne, aujourd'hui, avec la crise écologique, on se rend compte combien c'est évident que le comportement de l'homme et la vitalité de la nature sont liés. Aujourd'hui, ça s'impose. Mais pendant des siècles et des siècles, on a dit que c'était des contes de bonnes femmes.
Pardon Bernard, est-ce que le Covid est notre nouveau déluge ?
Ah oui, alors on peut le voir comme ça. J'ai vu Ben oui, c'est évidemment le fruit d'un dérèglement. Pourquoi les Chinois ont-ils des marchés avec des animaux sauvages ? Il y a suffisamment d'animaux domestiques, on n'a pas besoin d'aller piller la nature. Vous voyez, il y a des dérèglements qui nous coûtent cher, quoi. De même, il faut s'interdire d'acheter un t-shirt à 8 euros ou à 4 euros. C'est évident qu'il est chinois, c'est évident qu'il est fait par des esclaves.
2 euros.
Et on continue à acheter des t-shirts à 2 euros. Alors on dit c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Comme jeter ses poubelles dans la nature, c'est pas grave.
Mais, sauf que l'esclave, il a besoin de ramener cet argent à la maison aussi.
C'est mais qui se débrouille ? Qui se débrouille les Chinois ? Ils n'ont pas besoin de polluer le monde. Ils se débrouilleront très bien.
Bon.
Vous voyez, on n'a pas besoin de collaborer à un crime contre l'humanité. Parce que ça va être ça. Aujourd'hui, c'est une petite faute. Bientôt, ce sera un délit. Et je pense que dans quelques années, ce sera un crime. Ce sera jugé en justice, tous ces trucs-là.
Moi, j'ai souvent entendu parler du déluge comme étant en fait le jugement de Dieu qui ne supportait plus l'homme, ou à peu près. Et là, vous dites totalement autre chose. Vous dites que c'est la terre qui ne supporte plus l'homme.
C'est ça, oui, c'est ça.
Et je ne vois pas comment on peut dire que c'est la terre. Parce que vous le dites aussi déjà pour Caïn et Abel, que la terre…
Eh bien, parce qu'il y a des versets bibliques sur lesquels d'habitude on passe, parce que c'est tellement étrange. Et même le prédicateur, vous savez, du dimanche, qui prêche très rarement sur l'Ancien Testament, mais même un lecteur, disons, habitué, comme sont les prêtres, qui lisent le livre de la Genèse, le verset est tellement étrange qu'ils le prennent pour de la poésie. Par exemple, on nous dit « La terre a ouvert la bouche pour boire le sang, et la seconde fois où elle ouvre la bouche, c'est pour gémir, pour se plaindre, et Dieu entend son cri. » Alors nous, on se dit « C'est de la poésie ». Mais en fait, non, ça veut dire que la terre proteste, que Gaïa hurle, elle pleure, elle sanglote, elle appelle au secours. Et en fait, quand on lit le livre, on tourne les pages et on ne fait pas attention. Mais c'est des accroches extraordinaires. Alors j'en ai, parce que j'ai un cours beaucoup plus développé à l'Institut catholique sur la philosophie de la nature, et j'ai repéré des versets comme ça, il y en a une trentaine dans l'Ancien Testament, où on nous dit, par exemple, que la terre refuse de donner son fruit parce que les hommes ont fait la guerre. C'est très étrange. Les hommes font la guerre dans la vallée de Yisréel, et du coup, un verset biblique comme ça, au milieu des autres, hein, alors on est en plein récit de guerre, donc on se dit, bon, c'est un petit trait de poésie. Eh ben non. Non, non, la terre, alors, refuse de donner son fruit. C'est stupéfiant. Hein. Et il y en a plein dans, enfin, une, c'est ça, entre 20 et 30 dans l'Ancien Testament.
Bernard, et puis, vous avez... Oui. Est-ce que ça ne veut pas dire que Dieu est immanent à la terre? L'esprit qui est. Est-ce que c'est pas ça? C'est pour ça que la terre s'ouvre. Si la terre s'ouvre, Dieu s'ouvre.
Oui, oui.
Dieu n'est-il pas en quelque sorte, il est à la fois transcendant, mais n'est-il pas aussi immanent?
Oui. Alors, c'est une des raisons pour laquelle l'Église a bloqué sur cette théorie, parce qu'elle a craint. Je vous le disais la dernière fois, elle a craint le paganisme, l'animisme. Et du coup, elle s'est dit, oh là là, n'allons surtout pas sur ce terrain. Et donc, on a préféré obturer la question plutôt que d'aller sur un terrain glissant, qui était l'animisme. Mais en fait, il y a en effet un esprit dans les choses. Alors, Teilhard de Chardin, on a beaucoup parlé, hein, c'est-à-dire l'universel travail est nourri d'une pellicule d'esprit, comme il dit. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que la nature soit Dieu, mais ça veut dire que Dieu est partout. Quelque chose de Dieu est partout. L'esprit créateur de Dieu est partout. Et ça, le christianisme, disons, moderne, hein, 16e, 17e, 18e, le redoutait beaucoup. Parce que ben, y a des philosophes qui devenaient païens, hein. Et donc, le christianisme s'opposait à ça en disant, ah, non, c'est... Il faut lutter contre le paganisme. Au Moyen-Âge, on était plus sage. Avant, on était guerrier, donc on faisait la guerre au paganisme. Mais au Moyen-Âge, on était plus sage, on disait, ce qu'on n'arrive pas à supprimer, il faut le transformer.
Comment on est arrivé, à un glissement comme ça?
À cause de la modernité, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'est laissé séduire par des questions qui n'étaient pas les nôtres. La modernité, j'entends par là la Renaissance, le 16e, 17e, 18e. Les siècles, disons au pluriel, de la Renaissance et des Lumières. Où on s'est laissé attirer nous-mêmes, hein, dans des questions où on n'aurait jamais dû aller. Parce que du coup, on s'est opposé bêtement au monde et on a été acculé dans des querelles stériles. Par exemple, la querelle entre science et foi, d'où l'importante introduction que j'ai faite à ce dernier chapitre. Oui. Alors voilà, donc ça c'est passionnant, vous avez l'histoire, ensuite vous avez l'histoire de Noé, extraordinaire l'histoire de Noé aussi, qui plante une vigne, qui sort du nomadisme, et puis c'est à ce moment-là que j'ai précisé cette ancienne... cet ancien jeu de mots entre exaucement et exaucement. Et là, ça fait maintenant des années, alors je ne suis pas le seul évidemment, à développer l'idée selon laquelle la terre veut être exaucée. Mais exaucée comme si elle priait, elle nous priait de la libérer. Et c'est Romains chapitre 8. Voilà, Saint Paul aux Romains chapitre 8. Et ça, le pape François le cite, mais ne le développe pas. Et donc, si vous voulez, la dernière partie de ce chapitre, là, où je parle de Noé, de Caïn, etc., où je joue sur les mots exaucement, exaucement, en fait, c'est un commentaire de Romains 8. Okay. La terre gémit dans le travail de l'enfantement, non pas parce qu'elle a été soumise, mais parce qu'un autre l'a soumise. Et elle attend, nous dit toujours Saint Paul, elle attend la manifestation des fils de Dieu pour être libérée, elle aussi, de la servitude. Et c'est des versets, là aussi, vous voyez, c'est des versets bibliques qu'on entend, pour le coup, dans la liturgie, hein, une fois tous les 3 ans, mais on passe par-dessus en se disant que c'est de la poésie. Mais Paul, Saint Paul, poète? Ça, certainement pas. Hein. Saint Paul est tout sauf un poète, donc c'est pas de la poésie. Ça veut vraiment dire quelque chose. Et ça veut dire quoi, dans la tête de Saint Paul? Ben, ça veut dire que la terre qui a bu le sang du meurtre et qui en a été meurtrie, qui en a été polluée, là, elle demande à être restaurée quand les fils d'hommes deviendront fils de Dieu. C'est fabuleux comme pensée. Hein. C'est Saint Paul. Oui. Saint Paul au Romains chapitre 8. C'est oui. Donc dans l'encyclique également, je ne sais plus à quel numéro, hein, mais au passage, quoi. Donc, exaucement, ça vous est bien compris. Hein. Oui. Et puis alors après, j'explique. Alors oui, ça, bon, c'est une belle théorie esthétique. Hein. Je passe ensuite à l'histoire de Kaléo et Kalon.
C'est ça.
Ça, c'est une très belle théorie esthétique, magnifique. C'est magnifique. Bon, ça, Saint-François, évidemment, il signerait ça, évidemment. Saint-François, Saint-Bonaventure, les Chartreux, enfin bon, là. Et je disais dans l'introduction que même un scout, dans le scoutisme, c'est un des trucs qu'on dit. Hein. Et bon, voilà, un scout le sait, ça. Mais je pense que tout le monde le sait. Il y a une espèce d'émerveillement devant la beauté de la nature. Et donc, le christianisme a évidemment complètement intégré ça. Alors, après Kaléos et Kalon, je vous parle des bords du monde. Avec Saint Sauveur in Cora et le Mont Saint-Michel. Ça, c'est fabuleux aussi. Quelle belle pensée, quelle belle idée. Alors, derrière ça, aussi bien Saint Sauveur in Cora que le Mont Saint-Michel, il y a l'inverse de Hildegard von Bingen et Bonaventure. Hildegard von Bingen et Bonaventure pensent que ce qu'il y a derrière les choses, c'est le paradis. Et que le paradis ne demande qu'à réémerger. Vous vous souvenez de ça?
Oui.
Tandis que là, avec cette théorie byzantine et occidentale, c'est le chaos qui est prêt à réémerger. Vous voyez qu'il y a une différence de position spirituelle. Hein. Bonaventure, Hildegard, Saint-François, eux, ils diront, en fait, le paradis est encore là. Nous l'avons masqué, nous l'avons voilé, nous l'avons enfoui, mais il est encore là. Et on va le chercher. Et alors, j'utilise l'expression, ça rhizome. C'est-à-dire, ça court par en dessous et hop, ça émerge ici et là. Alors que pour cette pensée-là de Saint-Sauveur in Cora ou du Mont-Saint-Michel, on est dans une pensée plutôt du côté de Saint-Bernard, c'est-à-dire ce qui est prêt à reprendre partout, c'est le chaos. Et donc l'homme devient alors un acteur, et il doit, avec le Christ, il doit repousser les forces chaotiques. Alors, c'est très intéressant. Hein, alors les deux spiritualités cohabitent. On peut difficilement dire que l'une se trompe en faveur de l'autre.
Et c'est avant la résurrection et après la résurrection.
Quoi donc ?
La première théorie avec le chaos qui arrive, c'est avant.
Non. Vous l'avez dans le livre de l'Apocalypse où on nous dit que Satan est à la porte et qu'il n'attend que tu. Il t'attend. Et donc, dans le monde chrétien, il y a cette idée que la menace est toujours là. Et c'est une idée grecque. Hein, vous savez que les Grecs pensaient que le chaos était toujours alentour et qu'il était toujours menaçant et que le cosmos, c'est-à-dire la ville, était comme une tête de pont de l'ordre au milieu du chaos. Et donc, le chaos est toujours menaçant. Et donc, cette idée est toujours restée dans un type de spiritualité chrétienne. Et puis, il y a l'autre, donc Hildegard, Bonaventure, Saint-François, qui consiste à dire « Non, c'est plutôt les séquelles du paradis » qui sont toujours avec nous. C'est quelle de l'Édème. C'est deux façons de voir, hein, qui sont liées à des cultures et à des tempéraments aussi.
Mais on ne peut pas dire justement qu'il y a un combat entre le chaos et le ciel.
Oui.
Il y a un combat.
Oui. On peut dire qu'il y a un combat, oui.
On le voit aujourd'hui.
Oui. Oui, tout à fait, oui.
Avec une ligne de combat qui traverse le monde.
C'est ça. Oui, c'est pas, en effet, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas non plus une poésie. C'est pas, vous savez, l'hymne au soleil de Saint-François, quoi. C'est véritablement des enjeux colossaux. C'est-à-dire, si on laisse faire le chaos, en effet, tout partira.
C'est ça. Donc il faut se lever, quoi. Il faut...
Absolument. L'homme est donc gardien. Il est, vous savez, les trois là que je mets, gardien, veilleur,
guetteur.
Voilà. C'est beau, hein. Et pontife. Ouais. Alors, pontife, c'est le tout dernier point que j'aborde.
Et c'est très beau.
Voilà, vous avez des remarques, la joie du monde, bon voilà, Caléo. Et puis, alors je finis donc avec les invités aux noces, c'est-à-dire les acteurs, comment la liturgie, pour le coup, la liturgie architecturale, parce que j'ai pris l'architecture, comment intègre-t-elle la louange du cosmos ? Alors là, c'est tellement facile. Hein. Là, cet été, vous le verrez encore, puisque je pense que vous allez rester en France. Et donc, en France, on a des architectures romanes où il y a de la nature partout. Il y a des sculptures de végétaux, d'animaux, les signes du zodiaque, les lunaisons, les étoiles, il y en a partout. Et ça, il y a vraiment une volonté, ce n'est pas uniquement pour décorer, il y a vraiment une volonté liturgique d'intégrer dans la liturgie le monde créé. Alors, on y a été aidé par les symboles même de l'Eucharistie que sont le pain et le vin. Et pas uniquement le livre, vous voyez, comme chez les Juifs. Chez les Juifs, il n'y a que le livre, mais pas chez les chrétiens. Il y a le livre et le pain, le vin, c'est-à-dire la nourriture, la nature, le travail de l'homme. C'est très intéressant. Et du coup, ça s'est amplifié. Ensuite, il y a eu les fleurs, ensuite, il y a eu l'arbre, bien sûr. Le minéral, et puis les sculptures après avec des animaux de toutes sortes, des végétaux de toutes sortes, c'est incroyable. Y compris d'ailleurs des végétaux transfigurés par la louange. C'est-à-dire des végétaux que vous ne trouvez pas dans la nature. c'est vraiment génial comme idée.
Hein. On a l'impression que le roman s'adresse directement à l'âme et au sensible de chacun. Alors que le gothique va parler peut-être plus à l'esprit, on est peut-être déconnecté de quelque chose de primordial.
Oui, le gothique, en effet, le gothique, c'est l'illumination, c'est l'arrachement, c'est la captatio, alors que l'art roman est beaucoup plus dans la complicité. Oui. Il vous accompagne, l'art roman. Il vous conduit par la main, il vous fait, disons, mieux comprendre ce que nous vivons ordinairement. Alors que dans le gothique, il n'y a rien d'ordinaire.
Oui.
Tout est extraordinaire.
Et on est peut-être écrasé aussi par cet voilà. Extraordinaire, cette hauteur,
ouais.
Cette clarté.
Oui, quand ce n'est pas bien construit, on est écrasé. Ouais.
Et le baroque nous perd complètement.
Comment ?
Et le baroque nous perd complètement.
Ah, alors le baroque, c'est... bon, alors là, c'est tout un cours également sur le baroque à l'Institut catholique. Il y a plusieurs baroques. Hein. Il y a le baroque ibérique et le baroque... Bon, le premier baroque italien. Et puis ensuite, le baroque allemand. Alors, le baroque allemand, c'est le retour d'une théologie de l'exultation, y compris de l'exultation du cosmos. C'est-à-dire, dans le baroque allemand... Tout exulte. C'est donc là, il faut aller en Bavière, mais il faudra attendre. Je ne sais pas si on a le droit là, d'aller en Bavière. Ah ben oui, si, on a le droit depuis dimanche soir. Donc voilà, vous pouvez aller en Bavière et vous verrez l'exultation du cosmos. C'est le baroque tardif allemand, 18e siècle. Mais sinon, vous pouvez vous inscrire à l'ISTA.
Oui, ça a l'air intéressant, ça.
Institut supérieur de théologie des arts. L'an prochain, je donne ce cours.
Sur le baroque.
Alors c'est un cours en fait sur l'architecture religieuse. Et là c'est l'an dernier, enfin l'année qui se finit là. J'ai fait les fondements anthropologiques de l'architecture sacrée avec les tombes, tous ces trucs là, le rapport à la nature. Et là l'an prochain je fais de la période baroque à la période contemporaine. Les nouvelles aspirations.
Et dans les églises que vous avez montrées, il y avait effectivement du très contemporain, du roman, un peu de gothique, mais pas de baroque.
Oui.
Ça me va très bien, mais...
Oui, on ne peut pas tout montrer. Mais... Voilà, vous avez encore d'autres
questions. Avec le corona, vous ne l'aviez pas enregistré, votre cours sur le baroque ?
Ah non.
Dommage.
Non, parce que ça, c'est des cours que je donne, j'espère que l'an prochain, ça va marcher, bien sûr, que je donne, comment on dit, en présentiel. Là c'était dommage. Enregistré parce que jusqu'à présent, on était interdit de se réunir. Mais c'est intéressant quand même, hein, des cours comme ça, là. Alors évidemment, ça vous oblige, vous, à travailler pas mal. Parce que tous les étudiants le disent, hein, le distanciel demande beaucoup plus de travail.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais on acquiert plus.
Mais on retient plus aussi.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Moi, j'aimerais poser une question, vous poser une question.
Oui.
Déjà, je suis frappé de la tonalité de peut-être sérénité, sagesse, au travers de ce long parcours sur le rapport de l'homme à la nature, à la façon de louer son créateur. Et je trouve qu'il y a une très belle pédagogie, non seulement la vôtre, mais dans cette pédagogie de l'Église, dont j'avais pas complètement tout perçu comme ça. Je m'interroge sur la possibilité pour l'Église d'aujourd'hui, avec ses défis d'aujourd'hui, de revisiter un petit peu la liturgie, puisque c'est ça le propos, là, pour s'ouvrir au signe des temps, pour s'ouvrir à certaines formes d'accueil, peut-être pour se renouveler, pour être plus proche d'un certain nombre d'attentes. Il ne s'agit pas là de tout péter, etc., mais il s'agit de se dire... Il y a des merveilles dans ce rapport à la création.
Oui.
Ça reste incarné. On n'est pas dans le bisounours, là. On est en train de nommer les choses.
Hein. Oui.
Voilà. En quoi est-ce que, justement, par opposition à certaines tendances à vouloir imaginer le 19e siècle comme des repères, disons, porteurs, comment on pourrait s'inspirer pour finalement se renouveler dans la continuité, la création qui continue?
Oui. C'est en effet, c'est une vraie question. Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut avoir de l'estime pour ce goût de nos contemporains qui, le monde en gros, désire tout ce que je viens de dire. Désire relier l'énergie humaine à l'énergie de la nature. Et pour l'instant, tout le monde s'en saisit, sauf l'Église catholique, qui reste frileusement fermée et repliée sur elle-même, dans une espèce d'hyper-présence du Christ exclusivement dans les sacrements. Mmh. Parce que ça nourrit évidemment le cléricalisme que dénonce le pape François. Mmh. Or, la présence du Christ n'est pas uniquement dans les sacrements. Et donc, la présence du Christ est, il suffit d'écouter le sermon de Isaac, de l'étoile, la présence du Christ est dans la beauté du monde. Et donc, et même dans le soin que nous apportons au monde, dans l'attention que nous pouvons avoir à son égard. Et en effet, là, il faut vraiment que l'Église soit moteur dans cette pensée et donc cesse pour ça d'être obsédée sur le cléricalisme qui consiste à dire « en dehors des sacrements, vous êtes foutus ». Et pourquoi le cléricalisme tient-il tant aux sacrements ? Jusqu'à prêcher des contre-vérités du genre « le Christ n'est présent que dans les sacrements », évidemment, ils ne vont pas oser le dire, mais ils le font. Et pourquoi le font-ils ? À cause du cléricalisme. Et c'est pas étonnant que le pape François dénonce l'un et l'autre, dénonce la crise écologique et en même temps le cléricalisme. Parce qu'il faut à tout prix que l'Église sorte de cette espèce d'appropriation de la présence du Christ. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui.
C'est vachement sensible. Oui. C'est un sujet vachement sensible. On l'a vu pendant la crise du Covid, hein, parce qu'un grand nombre de mes confrères piétinaient d'impatience en disant « mais on ne peut plus donner les sacrements ». Et moi, je leur disais « écoutez, si vous ne pouvez plus donner les sacrements, enseignez la présence du Christ dans la charité, dans la prière, dans la beauté des choses ». Parce qu'il y est aussi. Il est notamment dans sa parole, ça. On en a quand même à peu près convaincu.
Il ne faut pas étendre cette notion de sacrement.
Je n'ai pas compris.
Il ne faut pas étendre cette notion de sacrement.
Oui, on pourrait l'étendre. Le Moyen-Âge l'a fait. Ce qu'on appelle les sacramentaux. Alors, les sacramentaux, c'est quoi ? Ce sont des signes sensibles porteurs de la présence du Christ. Et on l'a escamoté, cette théologie des sacramentaux, parce qu'au bout d'un moment, il y en avait trop. Et du coup, c'est au Concile de Trente, hein, donc 1563, on a limité, et on a limité donc à 7 sacrements, et on a supprimé les sacramentaux parce qu'il y en avait une cinquantaine. Et donc, on n'y comprenait plus rien. Quoi.
Pourriez nous donner un exemple,
oui,
des sacramentaux?
Par exemple, faire un bouquet de fleurs et le poser devant une statue. C'est un sacramental. Méditer le chapelet en marchant dans la forêt. Et tout ça, c'était considéré comme des sacramentaux. C'était impressionnant. Hein. Il faut qu'on y revienne là aussi. Parce qu'il y a une dimension sensible et une dimension quotidienne. C'est-à-dire le sacramental au singulier, les sacramentaux au pluriel, ils sont là. Il n'y a qu'à servir, si j'ose dire.
Mais on sent d'une certaine manière, par exemple, dans les philosophies orientales, l'ikebana, par exemple, le bouquet de fleurs, la marche méditative,
oui, donc,
avec le chapelet.
Exactement.
Voilà, c'est toujours là, on va dire. Ouais. Voilà.
Mais ça... c'est, à mon avis, c'est la raison pour laquelle nos contemporains, beaucoup de nos contemporains, pas tous, mais beaucoup de nos contemporains fatigués des errances de l'Église vont chercher dans les néo-bouddhismes, oui, parce que c'est un vocabulaire universel.
Oui, qui s'adresse à tout le monde.
Et ben voilà. Et c'est dommage que nous l'ayons oublié. Oui. Donc il faut y revenir, quoi.
Oui.
Il faut réhonorer la dimension sensible des choses.
Ben, vous êtes un bon biais.
Ouais, ouais. Ah ben je m'y emploie.
Ouais.
Bon, ben voilà.
Merci en particulier pour les illustrations qui confirment, ouais, ce qu'on vient de dire. Parce que c'était très agréable et je dirais même assez émouvant. La plupart des documents que vous avez sortis,
ouais,
c'était vraiment…
Absolument. Ça demande beaucoup de temps, mais il faut que je sois cohérent avec ce que je dis, puisque je crois qu'il y a une intelligence sensible. Et donc, la beauté d'une image est presque aussi importante que le concept qui va avec.
Oui.
Et il y a des gens qui vont du coup comprendre à cause de l'image et qui vont mieux comprendre ce que la phrase dit. Et donc, je le fais maintenant depuis plusieurs années. Alors, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, hein, parce qu'il faut chercher. Heureusement, on a des banques d'images prodigieuses.
Une image vaut 10 000 mots.
Ouais, moi je crois. Hein. Hein, je crois. Mm-hmm. Et Jean-Sébastien Bach vaut un bouquin complet.
Et l'image n'a pas besoin de traduction.
Oui.
Mais d'interprétation.
Ouais. Bon, ben voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres auteurs que vous nous conseilleriez à part vos bouquins à vous? Qui est-ce qui travaille sur ces questions aujourd'hui? Les théologies en pointe, c'est qui là?
Oui, alors il y en a hein, sur l'écologie. Alors d'abord, j'y ai fait allusion, vous savez, la dernière fois. J'ai signalé plusieurs livres. Hein, alors il y a des livres anciens sur la beauté des choses. Il y a Stanislas Breton, Bachelard et compagnie. Ça, c'est plutôt du côté de la philosophie. Du côté de la théologie, vous avez les livres que j'ai recommandés aussi des deux dominicains dans le document précédent, le cours d'avant. Et sinon, vous avez deux revues là en ce moment. La revue Études d'il y a déjà 5 ans, qui s'appelle La conversion écologique.
Oui.
Ça, c'est pas mal. Et puis, vous avez la revue Esprit, qui s'appelle Écologie et économie, qui est pas mal du tout. Et puis, vous avez une revue qui s'appelle Limite. Elle aussi, elle est un peu polémique, mais elle est pas mal.
D'accord.
Et donc, c'est dans un esprit d'émerveillement et puis d'action écologique. Donc ça, c'est 3 revues. Et sinon, dans les livres, alors moi, il y a Armund Rosa, donc, que j'ai cité plusieurs fois, qui vraiment, je trouve remarquable. Et il y a un monsieur qui s'appelle Bourg. Je ne me souviens plus de son prénom.
Jean-François, non ?
je ne sais plus, mais c'est celui qui a dirigé le numéro spécial de Esprit. Donc, on retrouve son nom facilement. Et alors, lui, il est l'auteur, il est chrétien, et il est l'auteur de 3-4 livres d'écologie qui sont très équilibrés, très intéressants.
Très bien, merci.
Vous nous avez fait une bibliographie, enfin une...
Je crois, et j'espère ne pas l'avoir oubliée. Elle doit être, elle est peut-être sur le site, mais elle est très faible, hein, parce que là, ce que je vous ai fait, c'est une espèce de synthèse. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce travail de pédagogie et de synthèse. Mais c'est tout l'intérêt des cours du CIF.
Je voudrais savoir, est-ce que actuellement on ne se tourne pas plus vers l'ordre de la révélation, quand on parle des choses qui sont belles, plutôt que dans l'ordre de celle de comprendre par l'explication de la philosophie, etc. J'ai l'impression que le pape maintenant insiste beaucoup plus sur la révélation du Christ qui se manifeste
et ouais.
Qui n'a pas besoin de discours. Il est
c'est
là.
Ça, c'est ça. Ou au moins, il faut effacer le côté obligatoire de la pensée dogmatique. Vous voyez, les nuances sont importantes. C'est-à-dire comprendre ce que nous croyons, c'est toujours important. C'est pour ça que le CIF existe. Mais il y a moins d'importance donnée par ce pape actuel pour l'importance du dogme. Mm-hmm. C'est-à-dire, bon, il y a un dogme, mais il y a aussi la révélation, quoi. Il y a aussi la révélation, disons, universelle, celle qu'il parle à tout homme. Et moi, je prétends souvent, j'ai prétendu ça devant les évêques, qui m'ont demandé mon avis, donc je leur ai donné, que c'était la charité qui précédait la vérité. Et que s'ils prétendent, eux, avoir la vérité, ce que moi, je ne prétends pas, en tout cas, la charité précède. Et donc, l'attention au monde, la bienveillance à l'égard des gens est avant le dogme.
Voilà.
Quoi qu'on en fasse.
Oui.
Bon, eh ben écoutez, c'est très bien. Eh ben merci à vous d'avoir suivi avec patience ces cours. Et alors ceux qui veulent s'inscrire au CIF, ben n'y manquez pas. Et les autres, ben vous pouvez faire de la publicité pour nous.
Très bien. C'est formidable, je trouve, d'avoir terminé par vos cours, parce qu'il y a un agrandissement, je trouve, de l'être humain aussi, de tout cet intérieur vers la nature. Il y a un prolongement et ça fait du bien.
La nature, la louange, l'émerveillement. Mais
et le rapport à l'homme.
Ouais. Voilà. Bien sûr, bravo. Vous finissez le CIF, là ?
Oui.
Ah, c'est bien.
C'est mais bien. Vraiment, j'allais dire que dans le CIF, j'attendais vos cours.
Waouh, bien.
Par ça, je suis artiste aussi.
Ah, oui.
Comme vous, j'aime les œuvres d'art, tout ça. Et je suis très touchée par la nature, par les animaux. Et du coup, ça me parle directement. Et je pense que j'ai peut-être manqué aussi de ce côté sensible des œuvres.
Ouais, voilà. Très bien, très bien. Vous avez peut-être suivi ma série sur les images de la croix que j'ai mise sur YouTube.
Non, mais...
Ah, ben vous pouvez aller voir, alors.
Oui, très bien.
Ne loupez pas ça.
Comment ?
Ne loupez pas justement la série sur la croix.
C'est ça, oui. Voilà. Il y a une série de 8 méditations sur la croix dans l'art.
Ah, très bien.
Oui.
Que vous trouvez sur
très
YouTube.
Très belle illustration, oui.
Ouais, c'est... Ben, je l'ai fait pendant la période de confinement, justement, pour,
oui.
Pour ouvrir les gens à des choses de contemplation, quoi.
Ouais. Oui. Merci, parce que je l'ai regardé avec attention et c'était très intéressant.
Ah, super, super.
Bon, regardez vos cours.
Et je l'ai diffusé, aux catéchumènes que je suis.
Oui.
Ils étaient ravis.
Ah oui, ça c'est bien, ouais. Les catéchumènes, ils ont besoin de ce genre d'aide.
Oui.
Bon, eh ben, merci à tous. Et quelques-uns se retrouvent pour la dernière séance avec Isaïa la semaine prochaine. J'y serai aussi, ceux qui finissent le CIF. Et les autres, ben, inscrivez-vous pour commencer le CIF.
Et à l'année prochaine, moi, je suis en première année.
Parfait. À bientôt.
Merci. Allez, bientôt.
Au revoir. Bonne semaine.
Au revoir.